Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un éblouissant Kylian Mbappé qui offre au PSG une victoire éclatante. Jamais une équipe française ne s'était imposée au Camp Nou en Ligue des Champions. Et c'est donc fait grâce à un triplé de l'attaquant parisien face au Barça. Score final 4-1. Les autres titres, Agnès.
Les médecins traitants pourront commencer à vacciner contre le Covid la semaine prochaine. Le combat de deux parlementaires pour rapatrier les enfants français détenus dans des camps en Syrie. C'est l'une des plus grandes décharges sauvages d'Île-de-France. Les 6000 tonnes de gravats du Val d'Oise vont disparaître. Et puis une boîte à cookies de Warhol ou un bébé de Keith Haring. La collection personnelle de Christo est mise en vente chez Sotheby's.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Karine Bécard.
Elle est une spécialiste de l'économie des médias qui doivent appartenir à qui? C'est une question qu'elle continue de creuser dans un nouveau livre qui sort aujourd'hui, L'information est un bien public. Julia Cagé, ancien soutien au candidat présidentiel Benoît Hamon et professeur d'économie à Sciences Po Paris, est notre invitée tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, la conquête spatiale et la course vers Mars dans le grand entretien de la matinale avec notre invité. Il est directeur de recherche au CNRS, planétologue, spécialiste de la planète rouge, Franck Montmessin. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter. Il a plié le match. Le duel annoncé entre Léo Messi, star du Barça, et Kylian Mbappé, prodige du PSG, a tourné court. Celui que l'on surnomme le kit de Bondy n'a laissé aucune chance à ses adversaires. 3 buts et une prestation éblouissante. Score final donc 4-1 face au Barça pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens savent mieux que personne que rien n'est encore acquis. Mais pour Mbappé, c'est sans doute le match qu'il attendait depuis longtemps. Bonjour Alexandre Vaux.
Bonjour.
Kylian Mbappé a retrouvé hier soir cette aura, ce jeu que l'on a découvert lors de la Coupe du Monde. Il n'avait alors que 19 ans.
Oui, le Mbappé supersonique qui court plus vite que tout le monde, décisif avec 2 de ses 3 buts, vous en parliez, marqué en lucarne hier soir. Alors, critiqué depuis quelque temps pour ses performances, malgré son titre de meilleur buteur de Ligue 1, il a su prendre ses responsabilités dans un grand rendez-vous européen en l'absence de son coéquipier Neymar blessé.
Peut-être que je vais encore rater des matchs, mais jamais dans ma vie je vais me cacher, même si on se trompe, on fait des erreurs, je vais jamais me cacher et voilà, aujourd'hui je paye le travail acharné.
Un mental de champion, vous l'avez compris, Mbappé remporte ainsi son duel avec le meilleur joueur du monde. Le quotidien espagnol AS écrit ce matin, Mbappé a mangé Messi, devenant hier d'ailleurs le 2e joueur de l'histoire à inscrire 3 buts dans un même match sur la pelouse du Grand Barça. Et à 22 ans seulement, Agnès, on a parfois tendance à l'oublier.
Mbappé qui ira loin, très loin, même ses concurrents le disent, Alexandre.
Concurrent et coéquipier en équipe de France, comme l'attaquant du FC Barcelone, Antoine Griezmann, avec qui il a été champion du monde il y a près de 3 ans déjà.
Je crois que le Paris Saint-Germain a une future très grande star qui va être au niveau, je pense, de Léo ou de Cristiano. Donc voilà, en profiter tous les jours et voilà, le féliciter parce qu'il a fait un très gros match.
Alors Léo, c'est Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, vous l'avez compris, idole d'Mbappé jusqu'à présent. Kiki, comme les gens aiment à l'appeler affectueusement, se classait un cran en dessous hier soir. Il a plus que toqué à la porte, il l'a défoncé dans cette rivalité grandissante entre le Barça et le PSG. Paris rêvait jusque-là de s'offrir Messi en envoyant Mbappé chez le rival des Barcelonais, le Real Madrid. Eh bien, les dirigeants du PSG désormais vont peut-être s'atteler à conserver le nouveau roi de Barcelone.
Merci Alexandre Vaux. Et match retour le 10 mars au Parc des Princes.
7h04, la suite du journal Agnès Soubiran. Les médecins traitants bientôt habilités à vacciner contre le Covid.
700 000 doses du vaccin AstraZeneca doivent être livrées en principe aujourd'hui à Santé publique France. Des doses destinées aux 50-64 ans qui présentent des facteurs de risque. Et la nouveauté, c'est aussi que les médecins traitants seront donc dans la boucle. Ils pourraient commencer à vacciner en cabinet dès le 25 février, Véronique Julia.
Pour cette première livraison auprès des médecins de ville, le nombre de doses étant limité, chaque médecin aura droit à un seul flacon qui contient 10 doses. Il doit donc trouver dans sa patientèle 10 patients qui correspondent à la cible, les 50-64 ans avec comorbidité, et organiser selon ce qu'il arrange, soit un après-midi de rendez-vous avec ces 10 patients, soit des rendez-vous échelonnés sur 48 heures puisque c'est le temps de conservation au frigo d'un flacon après ouverture. Pour disposer du flacon la semaine prochaine auprès de leur pharmacien, les médecins devront avoir passé commande avant ce soir, généraliste près de Toulouse, Jean-Louis Bensoussan a déjà dressé la liste de ses patients éligibles. On lui a promis qu'il aurait ses 10 doses au plus tard mercredi prochain.
Moi, j'ai prévu de donner mes 10 rendez-vous entre le vendredi et le samedi de la fin de semaine prochaine. Vous savez, c'est des gens qu'on connaît, qu'on voit tous les 3 ou 6 mois, et je les hiérarchise un petit peu en fonction de leur pathologie, de leur comorbidité, comme on dit. Je vais commencer à appeler ceux qui ne sont pas venus depuis quelque temps et pour lesquels je pense que la vaccination est nécessaire dans les semaines qui viennent.
À terme, les livraisons devraient être plus importantes et chaque médecin aura sans doute droit non plus à 10 doses, mais à 20, 30 doses par semaine, voire plus. Le docteur Bensoussan, par exemple, estime avoir 150 patients à vacciner à peu près dans la catégorie des 50-64 ans avec comorbidité. L'opération lui prendra donc plusieurs semaines.
Et comme en centre de vaccination, les patients n'auront rien à payer, le vaccin AstraZeneca, les agents de l'hôpital de Périgueux n'en veulent pas. Dans un communiqué publié hier soir, ils dénoncent des effets secondaires et une moindre efficacité contre le variant sud-africain, justement présent dans le département de la Dordogne. Enfin, un autre vaccin est en attente de validation par l'Agence européenne des médicaments, le vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson. Décision attendue le mois prochain. Le Parlement a définitivement validé hier la date des prochaines élections régionales et départementales qui auront donc lieu les 13 et 20 juin prochains. Et ce sera peut-être le dernier scrutin traditionnel car le gouvernement réfléchit à mettre en place un vote possible par anticipation pour la présidentielle de 2022. Un amendement vient d'être déposé au Sénat, explication dans le journal de 8h. Eux ont décidé de se battre pour exiger de la France qu'elle rapatrie les enfants français détenus dans des camps en Syrie depuis 2 ans. Un sénateur et un député ont écrit à leurs collègues pour tenter de mobiliser sur cette question délicate. La doctrine dictée par Emmanuel Macron est toujours celle du cas par cas. Sophie Parmentier.
Le sénateur communiste Pierre Laurent dit qu'il ne supporte plus d'imaginer ces 200 enfants français prisonniers derrière les grillages de camps kurdes poussiéreux et il appelle le Sénat à réclamer leur rapatriement.
Du point de vue humanitaire, la situation de ces enfants est insupportable et nous n'en pouvons plus puisque nous avons l'impression que le gouvernement, l'Élysée, organise une espèce de chape de plomb, de silence autour de cette situation.
Si nous continuons dans l'inertie, nous aurons été les parlementaires qui ont laissé mourir ces enfants innocents, écrit le député centriste Pierre Morel à l'huissier dans sa lettre à l'Assemblée nationale.
J'espère que ça va faire un électrochoc. Franchement, si les hommes et les femmes qui composent aujourd'hui les 577 députés, il n'y en a pas qui bougent là-dessus, c'est à désespérer que la France soit considérée comme un pays de droits de l'homme et comme un état de droit.
Marc et Suzanne, qui ont 4 petits-enfants dans le camp de Roge, sont aux côtés des parlementaires pour lancer un appel au secours au président de la République.
Ils sont véritablement en train de dépérir physiquement et moralement.
Ces enfants qui sont innocents, qu'est-ce qu'on fait ces enfants pour mériter ça? Ils ont toujours espoir de rentrer.
À ce jour, le gouvernement a rapatrié 35 enfants, des orphelins ou ceux que les mères ont accepté de laisser rentrer sans elles.
Nouvelle manifestation ce matin en Birmanie, alors que l'ONU s'inquiète d'une possible escalade des violences. Pour la 3e nuit consécutive, Internet a été coupé et des chars ont pris place autour de Rangoon et de plusieurs villes du pays. Aux États-Unis, c'est le dernier vestige de l'empire du jeu bâti par Donald Trump qui va s'effondrer littéralement aujourd'hui, puisque l'ancien casino Trump Plaza d'Atlantic City va être démoli après un âge d'or que nous raconte Grégory Phillips, correspondant de France Inter aux États-Unis. Trump's Castle Casino, take one.
À la fin des années 80, le nom de Trump s'étale en lettres d'or sur 4 casinos d'Atlantic City, dont celui-ci, le Trump Plaza. À l'époque, ces casinos attirent la jet set new-yorkaise qui vient en hélicoptère. On y organise des matchs de boxe avec Mike Tyson notamment, mais Trump s'endette beaucoup. Le Trump Plaza, 1 millier de chambres, 32 étages, a coûté 210 millions de dollars à la fin des années 90. C'est la faillite, le bâtiment était abandonné et en ruine depuis 2014. La Trump Organization a depuis rompu tous ses liens avec Atlantic City, mais elle croule encore sous les dettes. L'ancien président doit au moins 315 millions de dollars à ses créditeurs, peut-être plus, et de nombreuses compagnies privées, des banques, ainsi que la ville de New York ont décidé de couper les ponts avec sa société depuis les événements du Capitole. Quant au Trump Plaza, certes, il n'appartient plus au milliardaire républicain, mais sa démolition, programmée tout à l'heure, lui ressemble un peu. L'opération sera spectaculaire, diffusée sur les chaînes de télévision locales et devrait attirer des milliers de curieux dont certains ont payé pour être aux premières loges. I like that. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
You're gonna love it. Dans le Val d'Oise, ce n'est pas un ancien casino, mais une décharge sauvage qui va disparaître. Une solution semble enfin avoir été trouvée pour déblayer les 6000 tonnes déversées en toute illégalité sur les communes de Puise-Pontoise et Boissy-l'Aillerie. Alexandra Lagarde.
Une montagne de gravats, de ferrailles et de déchets s'amoncelle au milieu des arbres et sur les champs d'un agriculteur, jeté là par des entreprises ou des particuliers il y a 2 ans. Le coût du nettoyage aujourd'hui est estimé à 2 millions d'euros. Jean-Pierre Jandon est le président de l'agglomération de Cergy-Pontoise.
Il fallait qu'on trouve un système qui permette de retirer ces déchets sans qu'il y ait de l'argent public qui soit mis, d'autant plus qu'on était principalement sur des terrains privés.
Cette solution, c'est l'entreprise ECT qui va l'amener. Elle doit évacuer les déchets gratuitement. En parallèle, elle se fait payer par les entreprises de BTP pour récupérer la terre des chantiers qu'elles ont en surplus. Clara Didier est la chef de projet au sein de cette entreprise.
Les apports de terre vont nous permettre de financer à la fois l'évacuation des déchets en 2022 et à la fois tout le réaménagement et les replantations qu'on va faire en 2023-2024.
La terre n'est pas perdue, donc les déchets, quant à eux, sont partiellement triés par des spécialistes, mais il en reste une grosse partie à enfouir. Jean-Pierre Jandon reconnaît que ce n'est pas la panacée.
Je pense qu'il faudrait un certain nombre de normes aujourd'hui pour avoir des constructions avec des matériaux recyclables. C'est ça aussi qui permettrait d'éviter ce qu'on vit aujourd'hui avec ces déchets qu'il faut enterrer lorsqu'on ne sait pas les recycler.
L'agglomération envisage de mettre en place un système de vidéosurveillance sur les terrains vagues pour éviter que de nouvelles déchetteries sauvages voient le jour.
La disparition d'une figure du reggae en France, Tonton David Desmaurières, il avait 53 ans, célèbre pour son tube « Chacun sa route, chacun son chemin », choisi pour devenir la bande originale du film « Un Indien dans la ville ». La carrière de Tonton David retracée dans le mur du son d'Aline Afanoukoué à 7h25. Et puis, moins d'un an après la mort de Christo, l'emballeur du Pont-Neuf, une grande partie de sa collection et de celle de sa compagne Jeanne-Claude est mise en vente aujourd'hui à Paris. Près de 400 lots, des œuvres du couple, mais aussi de toiles et d'objets de leur collection personnelle, mises aux enchères entre 50 et 20 000 euros. Isabelle Pasquier.
C'est une collection très particulière car la plupart des œuvres sont en fait des cadeaux faits par les amis artistes de Christo et de Jeanne-Claude ou échangés avec leurs propres œuvres. Et dans leur appartement de New York, ces œuvres témoins de leur vie s'accumulaient en mode aléatoire jusqu'au plafond. Un éblouissant monochrome bleu de Klein au-dessus d'un bébé de Keith Haring, des boîtes à cookies de Warhol, une toile lacérée de Fontana ou encore un vieux poste radio transformé en aquarium par Nam June Paik. Mais dans la vente, il y a aussi des créations de Christo. Eddie Auchan est spécialiste en art contemporain chez Sotheby's.
On vend des œuvres du couple. On a essayé de faire une sélection assez large des périodes de création de Christo. On part très tôt en 1961 par un empaquetage. Ça fait partie des premières recherches des choses historiques de l'artiste. On met également en vente les dessins préparatoires, les installations monumentales qu'on connaît de l'artiste, notamment le dessin préparatoire du Pont-Neuf qui a été réalisé en 1985. Également une série qu'on connaît de manière un peu plus internationale, qui s'appelle les Umbrellas. Donc on a 2 dessins préparatoires. Un dessin préparatoire qui est destiné à une installation au Japon et l'autre dessin préparatoire qui est destiné en Californie.
Christo avait rêvé d'emballer l'Arc de Triomphe. Il ne le verra pas, mais son rêve sera réalisé l'automne prochain. Son premier rêve, sa dernière œuvre.
Une vente en ligne et en présentiel, comme on dit, à partir de 15h chez Sotheby's.
Merci Agnès Soubiran.